présenté par Christelle Le Polothèque
et préparé par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Thomas Hochmann, maître de conférence en droit public à l'Université de Reims, Champagne-Ardennes. Votre thèse de droit comparé, pour laquelle vous avez obtenu le prix René Cassin et qui s'intitule « Le négationnisme face aux limites de la liberté d'expression », vient de paraître aux éditions Pédone avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Alors il s'agit d'un sujet un peu ardu puisque c'est une étude de droit. Comparer France, Allemagne, États-Unis, Autriche, droit européen également, sur cette question du négationnisme face à la liberté d'expression. Alors, avec cette étude, vous avez voulu montrer ce que peut apporter le droit à ce débat qui est bien souvent vu sous les angles politiques et philosophiques et dont on oublie parfois l'importance juridique. Thomas Hochmann.
Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. En effet, je suis parti du constat que la grande majorité des contributions à ce débat sur l'interdiction du négationnisme abordait la question sous un angle plutôt politique ou de philosophie morale ou autre. Et donc j'essayais de proposer une étude plus strictement juridique de la question, c'est-à-dire d'examiner si la Constitution dans différents États, en France, en Allemagne, aux États-Unis, etc., permettait ou non d'interdire ce type de propos. Et puis, le cas échéant, qu'est-ce qui était exactement interdit? Quelles sont les expressions qui étaient visées? Quelles étaient les intentions qui étaient sanctionnées, etc.
Alors, peut-être avant de rentrer dans le vif du débat, on pourrait revenir sur l'origine du négationnisme. Quand est-ce qu'il apparaît la première fois? Et du coup, quand vont apparaître aussi les premières lois? Et dans quel pays?
Alors, le négationnisme, il apparaît... On dit souvent qu'il apparaît en fait en même temps que le crime, puisque les nazis vont s'efforcer de masquer leur crime dès qu'ils le commettent. Et puis immédiatement après la guerre, un certain nombre d'auteurs vont s'attacher à contester l'existence de ces crimes, notamment Maurice Bardèche en France, juste après la Seconde Guerre mondiale. Ces individus vont faire l'objet de sanctions juridiques également assez rapidement, pour injures, incitation à la haine, ce type de limitation de la liberté d'expression. Mais des lois spécifiques qui interdisent spécifiquement de contester l'existence du crime contre l'humanité apparaîtront plus tard. Il me semble que la première, mais ça c'est un système juridique que je ne traite pas dans mon étude pour des raisons linguistiques, qu'il me semble que la première interdiction spécifique du négationnisme apparaît en Israël, mais je ne crois pas qu'elle ait été beaucoup utilisée en pratique. Il me semble que le négationnisme n'est pas très répandu dans ce pays. Et en Europe, la première interdiction spécifique, c'est la loi qu'on appelle souvent la loi Guesso en France en 1990.
D'accord. Donc pendant toutes ces années, on va utiliser d'autres lois, comme vous le disiez, donc injures, incitation à la haine, discours de haine traditionnel que vous évoquiez. En fait, on va pas le contrer frontalement, c'est ça?
C'est ça. On va utiliser d'autres limites de la liberté d'expression, et donc simplement le fait de voter une loi qui... spécifiquement et simplement interdit, je simplifie l'énoncé de la loi qui n'est pas si simple que ça, mais interdit de nier la Shoah, eh bien ça va simplifier en quelque sorte les condamnations, puisque ce qu'il faudra établir devant le juge, c'est simplement que les propos poursuivis consistent à contester l'existence du crime. Tandis que si l'on se fonde sur d'autres lois, par exemple sur l'injure, eh bien il faut établir que les propos portent atteinte à l'honneur, à la considération de certaines personnes, de quelles personnes, est-ce que les morts peuvent être insultés? Il y a d'autres questions qui vont se poser, questions dont on peut se dispenser avec une loi spécifique.
Oui, c'est ça. Il s'est posé la question de savoir qui étaient les victimes du négationnisme pendant toute une période. Au fur et à mesure, cette notion s'est de plus en plus élargie, c'est-à-dire que les descendants des victimes de la Shoah ont pu être considérés elles-mêmes comme victimes du négationnisme. Mais ce n'était pas le cas au tout début.
Oui, enfin, c'est un problème, en effet, qui se pose avec les lois qui sanctionnent ce que j'appelle dans le livre l'infliction d'un préjudice psychique, c'est lorsqu'il faut démontrer que la loi porte atteinte à l'honneur d'une personne ou d'un groupe de personnes. Et cela va poser en effet différents problèmes. Par exemple, en Allemagne, on va se poser la question de savoir qui précisément est injurié, est insulté par des propos négationnistes. Et la jurisprudence allemande va parvenir à la solution suivante, qui a pu en surprendre beaucoup, la solution suivante qui est de considérer qu'une personne est insultée par le négationnisme si elle aurait été discriminée ou blessée ou tuée par les nazis à l'époque où ils étaient au pouvoir. Ce qui va conduire la jurisprudence à appliquer dans les années 70 les lois de Nuremberg 1938 pour déterminer si une personne aurait été juive au sens des nazis à l'époque.
Oui, donc, c'est ça. Vous parlez de statut de persécuté rétroactif.
Voilà, c'est une sorte
ça,
de...
C'est absolument incroyable.
Alors, en effet, ça, c'est d'une certaine manière assez logique, puisque la jurisprudence allemande considère que... Alors, je suis obligé d'entrer un petit peu dans les détails, mais la jurisprudence allemande accepte d'appliquer les lois contre l'injure ou la diffamation pour des propos qui visent un groupe de personnes, si ce groupe de personnes se démarque suffisamment du reste de la population. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas sanctionner des propos qui visent simplement les femmes, c'est trop large. Il faut que ce groupe soit suffisamment restreint et se démarque du reste de la population. Et les tribunaux vont dire, qu'est-ce qui fait que les Juifs vivant aujourd'hui en Allemagne se démarquent du reste de la population ? Eh bien, c'est le fait que c'est un groupe qui a été persécuté à l'époque du nazisme. Donc par la suite, pour dire, est-ce qu'une personne appartient à ce groupe ? Eh bien, le juge va regarder s'il aurait été persécuté à l'époque du nazisme. Suite à ça, en 85, le législateur va modifier la loi et permettre des poursuites sans avoir
sans
à établir...
Sans passer par les lois de Nuremberg, d'accord. Alors, d'un point de vue, là aussi, c'est assez simple, mais je pense que c'est une question qu'on peut se poser. En quoi l'interdiction du négationnisme s'oppose-t-elle à la liberté d'expression ? Puisqu'il s'agit d'un mensonge. Un mensonge, a priori, ne semble pas être protégé par la liberté d'expression, si ?
Alors, en effet, certaines... la Cour constitutionnelle d'Allemagne, par exemple, dit parfois une fausse affirmation factuelle ne relève pas de la liberté d'expression. La Cour suprême des États-Unis tient parfois des propos similaires. Cela dit, au-delà de ces affirmations, en fait, la jurisprudence n'est pas si catégorique. Et l'idée est la suivante, c'est que, certes, une fausse affirmation factuelle, ou un mensonge, c'est pas exactement la même chose, mais bon, disons, en soi n'a pas de valeur, ne mériterait pas d'être protégée, mais pour permettre quand même aux individus de s'exprimer librement, eh bien, on va protéger certaines fausses affirmations, parce que si on interdit tout propos qui est inexact, eh bien, les gens ne seront plus tellement libres de s'exprimer en ayant la crainte d'être sanctionnés parce que ce qu'ils ont dit n'était pas exact. Donc je pense que ce fondement-là ne suffit pas, en fait, pour justifier l'interdiction du négationnisme, si vous voulez. Je pense que le négationnisme tombe quand même dans ce qu'on appelle le domaine de protection de la liberté d'expression, c'est-à-dire qu'il faut se poser la question de savoir s'il s'agit d'une limite justifiée à la liberté d'expression. Et le résultat de mon étude, c'est que je pense que c'est en effet une limite qui est permise par la Constitution, tant en France qu'en Allemagne, mais pas aux États-Unis.
Voilà, ça c'est aussi une des choses qu'on apprend dans votre livre, c'est qu'il y a finalement une différence d'approche selon les pays, aussi, pas seulement attachée à la liberté d'expression comme aux États-Unis, mais aussi selon qu'ils ont été directement touchés par le nazisme ou non. C'est-à-dire en l'occurrence Allemagne, Autriche, France, et puis de l'autre côté il y a les États-Unis et l'Angleterre. Donc ils vont avoir une approche différente.
Oui, c'est ça. Alors certainement pour cette raison, aussi parce que... Il y a une conception de la liberté d'expression qui est complètement différente aux États-Unis par rapport à ce qui existe en Europe. Et donc aux États-Unis, en fait, il est complètement exclu de sanctionner un point de vue particulier, une opinion particulière. Donc il est complètement exclu, par exemple, d'interdire un propos... raciste, dès lors que les propos antiracistes sont permis. C'est perçu comme une discrimination entre les différents points de vue, Et donc c'est exclu par la Constitution, en tout cas par l'interprétation qu'en fait la Cour suprême.
Et pourtant la pornographie peut être interdite.
Alors c'est là le point sur lequel la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis est la moins protectrice de la liberté d'expression. Mm-hmm. En effet, ce sont tous ces propos qui, touchent au sexe, la pornographie, la question des propos orduriers, mm-hmm. etc. En effet. Je dirais que c'est assez intéressant, c'est que on retrouve, j'ai identifié dans le livre une similitude entre le régime des emblèmes national-socialistes en Allemagne, les croix gammées par exemple, et les propos orduriers, le mot en F par exemple, mm-hmm. en anglais aux États-Unis. Donc on a l'impression en fait,
c'est peut-être... Qui est bipé bien souvent.
Voilà. Mm-hmm. Et donc là, ce sont deux types de limites de liberté d'expression qui s'appliquent à des mots particuliers, non pas à des significations. Ce sont des restrictions que j'ai appelées littérales, donc peut-être qui montrent les tabous les plus importants dans chaque société.
Mais vous évoquez notamment le Rwanda qui, dans sa constitution, après le génocide, donc, a interdit la négation du génocide notamment, c'est bien ça. Donc ça montre bien à quel point quand même l'histoire du pays va jouer un rôle dans sa manière d'appréhender la question.
Bien sûr, le droit ne n'est pas ex nihilo, il est toujours dans les constitutions que les lois naissent de contextes historiques, bien sûr. Le Rwanda et l'Autriche sont les deux seuls cas, à ma connaissance, de pays où le négationnisme est interdit, non pas par une loi, mais directement dans la constitution. J'ai appelé l'antinazisme constitutionnel en Autriche, qui en revanche n'existe pas en Allemagne, où c'est une loi qui interdit ces propos et qui a donné lieu à une jurisprudence très alambiquée, parfois très complexe, de la Cour constitutionnelle.
Et qui date de quand ?
La loi allemande date de...
Non, l'autrichienne ?
Elle date... Dès 1945, en fait, la Verbotsgesetz, la loi d'interdiction, qui est une loi constitutionnelle, interdit toute activité favorable au national-socialisme. Et donc, parmi ces activités... On visait également, enfin les juridictions sanctionnaient également le négationnisme. Et puis en 1992, il va être écrit explicitement dans la Constitution que la négation, minimisation, justification des crimes nazis doivent être condamnées.
Et en même temps, c'est ce que vous expliquez, c'est que finalement, il y a une loi très stricte, enfin, qui est inscrite dans la Constitution, mais en même temps, cette loi ne va pas jouer sur les autres mouvements d'extrême droite. C'est-à-dire, même s'ils vont avoir les mêmes opinions, ils ne vont pas être interdits de la même façon, c'est ça? Il faut qu'il y ait le terme néo-nazi, enfin, il faut qu'il y ait...
Oui, c'est la particularité, en effet, de ce système autrichien. C'est vraiment un anti-nazisme constitutionnel. Donc, ce sont vraiment les activités, les propos favorables à l'idéologie nationale socialiste qui sont visées et non pas d'autres propos d'extrême droite, en effet, ou ce mouvement qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, à ma connaissance, qu'on appelait l'austrofascisme, d'autres opinions, activités antidémocratiques ou d'extrême droite ne sont pas visées.
Est-ce que, du coup, les propos antisémites sont interdits ou pas ?
Oui, alors bien sûr, là je parle vraiment juste de cette loi d'interdiction constitutionnelle, mais il y a après, dans le code pénal, d'autres lois qui visent les propos racistes, antisémites, etc.
On parlait tout à l'heure du modèle américain, dont vous disiez qu'il est extrêmement attaché à la liberté d'expression. On sait qu'il y a une longue et abondante réflexion à ce sujet là-bas. Est-ce que ce modèle américain a influencé d'une certaine manière les débats sur la loi Guesso en France?
Alors, peut-être comme... Je dirais pas qu'au fond, il l'a vraiment influencé. Par contre, peut-être la référence au modèle américain sert un peu d'outil rhétorique, d'argument pour ceux qui sont opposés à certaines limites de la liberté d'expression. On va mobiliser mm-hmm. un modèle américain un peu idéalisé, sans entrer trop dans les détails, et dire que, comme le montrent les États-Unis, grande démocratie... La liberté de s'exprimer doit être absolue. Bon, la liberté de s'exprimer n'est pas non plus absolue aux États-Unis. Simplement, c'est vrai que le régime est plus protecteur. Là, je dirais pas que ça a influencé, c'est plus un lieu rhétorique qui est utilisé, à mon avis.
Et quelles ont été justement les craintes de ceux qui s'opposaient à cette loi Guesso ?
Alors, je pense, donc ça, c'est vraiment, c'est la question, c'est peut-être la question essentielle, mais c'est celle que je n'aborde pas dans le livre, de savoir que, finalement, quels sont les arguments politiques en faveur ou à l'encontre de cette interdiction, ou bien du projet de pénalisation de la négation du génocide arménien. Puisque précisément, il y a déjà de nombreuses études sur la question, moi j'ai voulu m'intéresser à autre chose dans le cas sur cette question.
Non, mais d'un point de vue juridique, je parle de ces oppositions-là.
Alors, c'est ça le problème. Je pense que souvent des oppositions morales ou politiques à ce type de loi, plutôt que s'exprimer explicitement comme telles, vont se cacher derrière la Constitution et essayer de se présenter sous une apparence d'argument strictement juridique. On l'a vraiment vu lors du débat récent sur la pénalisation de la négation du génocide arménien, où finalement, tant au Parlement que au Conseil constitutionnel dans la décision, on n'aborde pas vraiment le fond du sujet. De quoi auraient dû débattre les députés, les sénateurs, de la question de savoir si pénaliser la négation du génocide arménien était ou non une limite justifiée de la liberté d'expression, c'est-à-dire est-ce que cette expression provoque des conséquences néfastes qui l'emportent sur les éventuels inconvénients liés à cette interdiction. Au lieu de traiter de cette question, qui n'est pas toujours facile en effet, parce que c'est des points de vue subjectifs, ce sont des domaines assez sensibles, au lieu de traiter de cette question, eh bien, on a prétendu que le législateur n'était pas compétent en raison de tel article de la Constitution, etc. Mais ce sont des arguments qui, de mon point de vue, si on les regarde d'un peu plus près, ne sont guère pertinents. Donc là, la Constitution sert plutôt de refuge pour se cacher derrière elle et argumenter de manière neutre, juridique, sans assumer ses opinions politiques, finalement.
Actuellement, quelles sont les lois parmi et puis les pays, donc parmi ceux que vous évoquez dans votre livre, qui sont les plus à même d'interdire l'expression du négationnisme dans nos sociétés contemporaines? Je pense notamment à Internet, qui permet une diffusion.
Oui. Les propos négationnistes sont déjà interdits dans un nombre assez important d'État. Évidemment, le problème avec Internet, le problème que peut poser Internet dans la lutte contre le négationnisme, c'est que même si les propos sont interdits, il est difficile d'appliquer les limites contre ces types de propos. Il est difficile de savoir qui est responsable entre l'hébergeur, le site, la personne qui a publié les propos, etc. Et cela pose de nombreux problème sur un plan transnational, dit-on parfois, de quelque chose qui va être écrit en Australie, hébergé aux États-Unis, élu en Italie, etc. Donc c'est quelque chose en effet d'assez complexe qui rend plus difficile la lutte contre le négationnisme. À partir de là, certains vont argumenter et dire « voyez bien que l'interdiction du négationnisme est une mauvaise idée puisque des propos négationnistes existe encore, on en trouve encore sur Internet. C'est un argument que l'on trouve assez fréquemment et qui me semble pas très pertinent puisque c'est une confusion assez classique. Il y a toujours des meurtres, mais pourtant personne n'en déduit qu'on ne devrait pas interdire le meurtre.
Le pénaliser en tout cas. Mmh. Ouais. Et donc, je reviens à la première partie de ma question. Oui. À votre avis, lesquelles de ces lois, ou en tout cas la manière dont elles ont été pensées, dans quel pays vous semblent les plus justes, ou en tout cas la plus efficace ?
La plus efficace, c'est difficile à dire. Je dirais que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'avantage des lois qui interdisent spécifiquement le négationnisme par rapport à d'autres limites plus générales de la liberté d'expression, c'est qu'il suffira d'établir que les propos poursuivis dans leur contexte ont pour signification une contestation du crime contre l'humanité. Il suffira d'établir cela pour l'interdire. Il n'y aura pas besoin de démontrer que ces propos risquent de provoquer de la violence, que ces propos portent préjudice à telle personne. Donc il facilite en effet la répression. Mais en effet, pour le problème d'Internet, je crois que c'est un problème davantage pratique, si vous voulez, et un problème de bonne entente avec certaines entreprises américaines. Est-ce que Yahoo va accepter de retirer tel élément qui ne peut pas tellement être réglé sur le fondement de... Enfin, ce n'est pas les différents types de lois d'interdiction du négationnisme qui vont vraiment modifier la donne, si vous voulez.
En France, je pense, à part quelques négationnistes vraiment... comme Forisson, des gens comme ça qui assument et qui continuent pleinement de leur discours. En règle générale, on va avoir des propos euphémisants, par exemple, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que ça, c'est aussi puni par la loi quand on contourne, en fait
Mais, alors, déjà, la loi Guizot a été justifiée par certains comme une... réaction à cette tactique d'euphémisation, où au lieu d'attaquer directement un groupe de population, on va simplement faire comprendre que ces gens sont des menteurs de manière un peu détournée. Donc déjà, l'interdiction spécifique du négationnisme a été perçue par certains comme une réaction à cette entreprise d'euphémisation. Évidemment, c'est une des particularités de la liberté d'expression. Toute limite de la liberté d'expression tend à donner lieu à des tentatives de contournement. Oui. Donc finalement, ce sera le travail là, du juge, de voir si les propos poursuivis, dans leur contexte, sera à lui de les interpréter, et de voir est-ce que ces propos reviennent à contester l'existence des crimes contre l'humanité nazis ou non. Ensuite, tous les propos critiquables ne sont pas interdits... juridiquement.
Non, vous donnez l'exemple en Allemagne, je crois que c'est lors d'une campagne électorale où le FDP avait fait une affiche où on voyait le président du parti sur une moto avec comme slogan « Gas Geben », ce qui peut vouloir dire « envoyer le gaz ». Avec cet homme sur cette moto, et puis évidemment qui peut faire référence à ce qui s'est passé dans les camps d'extermination, cette affiche n'a pas été interdite finalement.
Voilà, c'est ça. C'est le NDP.
Hein, c'est le NDP, pardon. Ouais.
En effet, c'est alors lorsque les propos peuvent donner lieu à deux interprétations volontairement, ils jouent là-dessus. La doctrine de la, enfin la ligne directrice de la jurisprudence allemande, c'est que lorsque des propos peuvent être interprétés de deux manières, une manière qui donnerait lieu à sanction, une manière qui ne donnerait pas lieu à sanction, eh bien la première ne doit être tenue que s'il est absolument impossible d'exclure la seconde, que s'il est impossible d'exclure une interprétation qui ne donnerait pas lieu à sanction, dans ce cas-là, on peut sanctionner les propos. Donc pour éviter quand même que une sanction trop grande de l'expression, puisqu'il faut quand même tenir compte de la liberté d'expression, même si l'on souhaite lutter contre certains types de propos.
Mais là, donc, on voit vraiment, selon la personne qui soit va produire cette affiche, soit qui va exprimer cette opinion, ça c'est quelque chose qui joue un rôle fondamental, en dehors du discours qui est tenu, c'est la personne qui va le tenir, et ça n'a pas joué un rôle, en l'occurrence, le fait que ce soit un parti d'extrême droite, ça pas...
Alors là non, mais en effet c'est parfois parmi l'ensemble du contexte de l'expression qui entre en compte pour l'interpréter, évidemment la personne du locuteur est un élément qui parfois est pris en compte. Je pense que la dernière condamnation, enfin il n'a pas été condamné au pénal, mais il a été sanctionné disciplinairement, je parle de Bruno Gollnisch, qui avait été sanctionné disciplinairement pour des propos tenus dans une conférence de presse. Ces propos ne contestent pas directement l'existence des chambres à gaz. Il revient aux historiens d'en discuter. Mais comme on sait qui parle, on sait ce qu'il a pu dire dans le passé, évidemment, c'est un facteur qui est pris en compte pour interpréter les propos.
Merci Thomas Hochmann. J'invite donc les auditeurs à se plonger donc dans votre thèse qui a été donc soutenue par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, le négationnisme face aux limites de la liberté d'expression, et qui vient de paraître aux éditions Pédone. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.